sur la côte vendéenne. Il est 16h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez.
Neptune FM et les productions du Café de la Mogette présentent Un cheveu sur la langue, un...
Poids dans la main, payé à rien foutre, vous gardez la poutre dans l'œil du voisin.
Bonjour. Comment allez-vous ce jour? Oui, je dis bonjour exprès parce que c'est ni le matin ni le soir, donc ça fait bonjour, il y a les deux quoi, bon. Et voilà donc une nouvelle émission de d'un cheveu sur la langue, un poil à la main. Une émission un peu spéciale parce qu'aujourd'hui j'ai deux invités de marque, n'est-ce pas? Il y a Pascal d'un côté, Benoît de l'autre, voilà. On va commencer par madame. Bonjour Pascal.
Bonjour Yves.
Comment tu vas? Depuis le temps que je t'ai on se tutoie parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps. Hein, ça va?
Ça va très bien,
bien,
merci.
Et je dis pas encore de quoi tu vas venir parler, mais on va le dire après parce qu'il y a Benoît qui est là. Bonjour monsieur, comment tu vas?
Bonjour Yves, ça va très bien, merci.
Ça va très bien aussi, voilà. Ils sont deux parce qu'ils présentent, ben je vais vous dire pourquoi maintenant. Il y a, vous vous souvenez certainement d'un certain podcast à Neptune, puis après d'une exposition sur le port qui parlait et qui et dont le titre était s'intitulé « Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte, histoire des conserveries ». Voilà. Et il y a un bouquin qui est sorti, bien sûr, qui reprend tout ça en l'enrichissant, en l'édulcorant. Ça permettra de revoir l'exposition bien au chaud chez soi, et puis tout ça, quand il fait froid, et puis bien au froid quand il fait chaud. Voilà, c'est, en gros, c'est ça. Alors, et puis en plus, ben, y a Benoît qui est l'éditeur du livre, parce que c'est pas le tout, c'est édité à l'Île-Dieu par les éditions Ilès, qui sont venus déjà au micro, c'est un habitué maintenant, n'est plus une FN, n'est-ce pas Benoît?
Oui, tout à fait.
Oui, donc voilà. Et puis, Pascal, t'es habitué aussi, d'ailleurs, toi, t'as participé à Neptune FM il y a longtemps.
Oui, il y a très longtemps.
Ouais, tu faisais, oui. C'était dans les anciens locaux. Tu te rappelles?
Je m'en souviens, oui.
tu faisais une revue de presse, hein, pas ça que tu faisais?
C'était plus une revue littéraire, justement, ouais. De bouquins. Oui, oui.
D'accord, déjà à l'époque. Ah, oui, déjà, oui, ça te poursuit, ça. Donc là, c'est toi maintenant qui écris, ça rigole plus. Hein?
Bah, je ne sais pas si ça rigole ou pas.
Non, mais j'ai commencé à le lire, le bouquin. Je n'ai pas tout lu parce que, en fin de compte, j'avais vu l'exposition. Les podcasts de Neptune, j'en avais entendu parler. Je ne sais pas vraiment tout. Écoutez, c'est les cordonniers qui sont toujours les plus mal chaussés. Donc, c'est pour ça que quand un Neptune ne t'écoute pas, ce n'est pas bien. Et donc, il y a eu les podcasts d'un premier temps à Neptune, puis après, l'exposition. Ça, c'est, comment c'est venu? Raconte-nous un peu l'idée de cela.
Bah, l'idée, c'était de faire un travail sur les usines de l'Île-Dieu, puisque bah, le quartier des usines, aujourd'hui, est une friche industrielle, si on veut aller par là, hein, à l'échelle de l'Île-Dieu. Oui. Et ça faisait assez longtemps que moi, j'avais commencé à travailler sur ce sujet au niveau des recherches en archives. Mmh. Et j'avais récolté pas mal de choses qui me paraissaient intéressantes. Mmh. Et puis, je me rendais compte que cette histoire, elle s'estompait de plus en plus, quoi, et que c'était bien de la remettre un peu au jour. Et voilà, donc j'avais proposé aux élus, puisqu'à l'époque je travaillais pour le service patrimoine, de faire une expo sur les usines de l'Île-Dieu, et bon, ça avait été accepté. Ouais. Et pendant que je travaillais sur cette expo, en fait, j'ai été contactée par Maya Toubiana, qui m'a proposé de faire des podcasts.
Oui.
Sur Neptune.
Voilà.
Donc en fait, on a travaillé les deux en même temps.
Et voilà.
Voilà. Et les podcasts ont été diffusés sur Neptune avant l'expo, quoi, un peu en avant-première, quoi, pour mettre les gens
pour aller
en bouche.
Un peu les gens.
Voilà.
Mais bref, puis ça se complétait un peu quand même malgré
complètement.
Tout.
Complètement. Hein. Ouais. Oui, oui.
Parce que c'était pas une reprise de l'expo, c'était autre chose qui permettait de. C'était basé plus ces podcasts sur le début, non?
Oui, voilà. C'était vraiment l'introduction sur les usines, les premières usines de l'Île-Dieu, alors que l'expo balaye une période historique plus large. On va dire.
Voilà. Ah oui, c'est quelque chose. Et c'est beaucoup plus large. C'est ça que cette expo, ça a été suivi. Il y a du monde qui a été allé voir. Et c'est vrai que c'était intéressant de se balader sur le port parmi ces grands panneaux qui retraçaient l'époque révolue des usines. C'est marrant d'ailleurs, dans le bouquin, il a remarqué qu'il y a une des usines qui s'est implantée sur une ancienne usine qui traitait la soude, le charbon de
Varech. C'est dans le même périmètre, hein, c'est pas complètement vraiment dessus, mais c'est juste à côté.
Parce que, avec le temps, il y a des choses qui viennent, d'autres qui repartent, c'est ça, c'est toujours. C'est le problème de l'industrie, enfin, le problème, c'est comme ça, l'industrie, l'économie, quoi. Cherche des profits, puis quand il n'y en a plus, ils s'en vont, quoi.
Oui. Hein,
c'est ça.
C'est un peu ça.
C'est vrai que, quelquefois, le côté social. Ça laisse un peu grincer des dents, quelquefois, c'est vrai, on a connu ça. Mais ça, t'en parles dans ce bouquin aussi.
Oui, c'est une synthèse et c'est mon analyse.
Hein. Oui.
Ça n'engage que moi.
Toi, bien sûr.
Même si j'étaye tout ça de documents que j'ai trouvés.
Bien sûr.
Mais quand on traite un sujet, on a toujours un regard, même si on essaie d'être objectif. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé, c'est un peu le côté social de cette histoire.
Oui, parce que ça fait quand même bouger les masses à Lille-Dieu, ça a créé, t'en parles d'ailleurs aussi, de la population qui change, des gens qui viennent, qui font des foyers. Lille-Dieu change même au niveau social.
Ouais, je pense que l'implantation des usines change effectivement beaucoup de choses à Lille-Dieu, à la fois sur la société traditionnelle telle qu'elle était organisée autour des petites fermes familiales, puisqu'en fait, cette économie-là reposait beaucoup sur les femmes. Et à partir du moment où les femmes vont à l'usine, y a des choses qu'elles vont délaisser au niveau de l'économie familiale. Je pense notamment aux vaches, parce qu'une vache, il faut la traire deux fois par jour. Mmh. C'est pas du tout compatible avec les horaires de l'usine, en plus assez imprévisibles, assez décalés. C'est des choses qui vont effectivement profondément impacter la suite, quoi. Sur l'abandon progressif effectivement de l'élevage et de l'agriculture. Et puis les usines, ça attire aussi donc beaucoup de marins extérieurs, de Bretons qui viennent commencer la saison notamment à Lille-Dieu. Donc là aussi, au niveau du port, ça change la physionomie du port aussi, et puis ça apporte aussi beaucoup de choses à l'économie locale. Donc c'est à la fois un ébranlement de la société traditionnelle et en même temps un dynamisme nouveau pour l'économie locale.
Et si bien qu'il y a, alors tu t'aperçois que, alors dedans il y a des noms, la cale de la mer Ratwix.
Rastwex, je sais pas comment ça se prononce.
C'est pas Ratwix, c'est pas la famille Ratwix.
Non.
Rastwex, c'était qui cette dame-là?
Alors, j'ai trouvé dans les archives, son mari était quelqu'un d'important, parce que quand il meurt en mer. Le maire écrit de très belles choses sur ce monsieur, donc qui devait être un peu un notable sur l'île.
C'est pour ça que la cale à la mer Rastwex était réputée. C'est celle où venaient généralement les bateaux bretons.
Oui.
Qui est devenue donc la cale aux Bretons.
Familièrement, c'est comme ça que les gens de l'île l'appelaient.
C'est une revanche après Port Breton qui est devenu Port Joinville. On explique pourquoi dans le bouquin d'ailleurs. Ils reprennent possession d'au moins une cale. c'est pas mieux que ça. C'est toujours mieux. Et oui, il y a eu beaucoup de Bretons qui sont venus pêcher. Là, dans le livre, on le voit, il y a eu des. Et puis qu'on fait souche aussi.
Alors certains ont fait souche, effectivement. Oui. Il y a pas mal de familles ici qui ont des ancêtres bretons qui sont venus pêcher la sardine ou les maquereaux à l'île-Dieu. Personnellement, moi, du côté Guingot, par exemple, mon arrière-grand-père est venu faire la sardine ici et a fait souche ici. Oui. Je pense à la famille Berlivet aussi. Certains ici ont connu le Pépé Jules. Pareil. Il est venu au moment de toute cette activité-là aussi.
Comme disait la Bretonne, mon mari, il fait la sardine, puis l'hiver, il fait le maquereau. C'est vrai. Moi, je sais que, mon nom Cadou, il n'y a pas de problème, on sait d'où ça vient. Mais ça date du 13e siècle. Il y avait certainement des souches bretonnes avant, mais qui étaient cultivatrices. Oui. Et puis, c'est des souches maritimes qui sont venues au 19e, il me semble, des Bretons.
Au 19e, les gars qui viennent effectivement pour pêcher.
Pour pêcher, oui. Des pêcheurs. Oui, et donc ce bouquin, on va y revenir bien sûr, parce qu'il est là, on va en parler. Hein, il a été édité par l'édition Il est, c'est un choix. C'est comment ça s'est fait avec Benoît, qui en parle, Benoît, Pascal,
je sais pas. On va laisser parler Benoît, j'ai beaucoup parlé.
D'accord, vas-y, allez. Benoît.
Oui, alors il y a un peu plus d'un an, on est en train de lancer cette maison d'édition.
Oui.
Et on cherchait des choses à publier.
Oui.
Donc on avait des idées de romans, de jolis livres avec des dessins,
oui.
Et on voulait créer une collection Histoire et Patrimoine, et donc j'ai été rencontré le service patrimoine et j'ai été invité en commission culture de la mairie pour présenter le projet. Je leur dis voilà, vous avez au service patrimoine travaillé depuis des années ou des dizaines d'années, vous avez rassemblé plein de choses passionnantes sur les lieux. Vous en racontez une partie, soit dans des expositions comme celle sur les usines au Quai du Canada l'an dernier, ou alors dans des visites conférences. Et je leur dis, ça pourrait être intéressant également de récupérer tout ça et de le mettre noir sur blanc sur un livre, d'en faire des livres, parce que les livres, ça dure longtemps et tout le monde peut en profiter. Alors, il y a eu plein de sujets évoqués. On avait parlé de... il y a une très jolie visite de Saint-Sauveur au fil des rues, en disant que ça pourrait être intéressant de mettre ça en livre. Après, on a parlé de... la citadelle où on se trouve en ce moment, avec une histoire très intéressante.
Oui.
Et puis finalement, j'ai dû recevoir un coup de fil mi-septembre de... Je ne sais plus si c'est Manu Guillon ou si c'est Pascal qui m'appelait directement. Bon, mais d'abord, voilà, on a décidé... Il y a eu des demandes, des gens qui ont voulu l'exposition, de savoir s'il n'y avait pas un petit livre qui allait avec. Donc, on a décidé de prendre ce livre sur les usines, comme sujet.
Et c'est commencé comme ça. Et donc, West France le dit d'ailleurs, qui disait, parce qu'il y a eu un petit article qui a paru dans quelques jours dans West France, qui disait qu'il y a quelques jours, la maison Édition Ilaise a fêté son premier anniversaire. À cette occasion, il y a eu un livre pour fêter ça et célébrer dignement ce premier anniversaire. La maison va publier mi-juillet son premier ouvrage. Attendez, parce que là, j'ai pas tout entier, je vais prendre ça. Son premier ouvrage de la collection Histoire et Patrimoine avec Quand Dieu mettait la mer en boîte, Histoire des conserveries de Pascal Cariou. Alors, les gens ont dû chercher partout, à mi-juillet, mais c'est encore paru, ça va paraître.
C'est paru.
C'est paru, ça y est.
Il est en vente depuis le 15 juillet.
Quoi, depuis le 15 juillet, c'est un feu d'artifice. Quoi.
Il a passé 4 jours à Fromentine avant d'arriver, parce qu'il fallait d'abord faire passer les containers de froid au moment où il faut remplir l'île de nourriture. Quand l'île se remplit, il faut bien remplir les frigos.
Oui, bien sûr.
Donc j'étais très impatient, mais au bout de 4 jours, il est arrivé.
Le bouquin est là.
Et donc on peut le trouver un peu partout sur l'île.
Je l'ai entre les mains, c'est sympa comme bouquin. J'ai pas tout lu, parce qu'il y a de quoi lire quand même, parce que Pascal est prolifique Mais il n'y a pas que, parce qu'il y a plein de photos dedans. C'est très, très, très illustré. Et c'est intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Parce que je trouvais rigolo aussi, c'est le marquage des pages en forme de ton. C'est rigolo, ça. Ouais. Bon, c'est rien, c'est une petite anecdote, mais c'est sympa.
Et c'est une idée de Benoît.
Ça, c'est une bouquin, mais c'est vrai que c'est sympa. Ça se lit bien, c'est agréable à lire. Il y a vraiment, vraiment plein de documentation dedans. C'est un livre très intéressant et qui fourmille d'anecdotes, je ne sais pas, parce que je suis au début. Donc là,
Pas tant que ça d'anecdotes, mais en fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur les archives locales. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça a permis de rassembler en fait, des choses qui étaient assez éparses au niveau des archives municipales. Donc, je pense que c'est plutôt ce côté-là moi, qui m'a intéressée, parce que il y avait vraiment beaucoup de choses à aller chercher. Rien que dans nos archives, quoi.
Absolument. Sans vouloir, on va pas parler de tout le livre. On va pas raconter le livre pendant l'émission. On va quand même le situer, puis feuilleter un peu les pages au fil du temps, quoi. Donc ça commence au 19e siècle, les conserveries, les lieux, c'est bien ça.
C'est fin 19e, enfin dans la deuxième partie du 19e.
C'est presque le 20e siècle, mais à l'industrialisation...
On est en pleine révolution industrielle.
Absolument. Et donc, on connaissait déjà les ouvrières d'usines, enfin les ouvrières des sardineries, des friteries, comme on disait à l'époque, c'est ça.
Oui.
Il y avait des confiseries d'abord, ça s'appelait des confiseries.
Oui, en fait, parce que quand les débuts de la conserve, qu'est-ce qu'on fait? On confie, en fait, les aliments. Donc les conserves, parce que ce qu'on a appelé les conserveurs après, on les appelait les confiseurs, parce qu'ils faisaient des confits.
Voilà.
Et donc effectivement, les premières usines de sardines, puisqu'au début c'est surtout la sardine qu'on travaille, c'est même principalement la sardine qu'on travaille, ça s'appelle des confiseries.
Et à Lille, on appelait les filles qui travaillaient aux usines, il y a beaucoup, principalement des filles qui travaillaient aux usines. On les appelait donc les filles des usines, c'est ça?
À l'Île-Dieu comme ailleurs, hein, c'est une main-d'œuvre principalement féminine dans les usines. Après, quand les usines commencent à travailler le thon, il y a un petit peu plus d'hommes qui rentrent dans le personnel, parce que notamment pour la coupe et tout ça, c'est quand même très très physique. Mais c'est vrai que majoritairement, ce sont des femmes, que ce soit en Bretagne ou en Vendée, ou même au Pays Basque, ce sont des femmes qui travaillent dans les usines.
Et en Bretagne, elles s'appelaient les peines sardines. Regarde l'enchaînement un petit peu, c'est pour amener la chanson, les peines sardines. Enfin, c'est une chanson qui a été reprise il n'y a pas longtemps d'ailleurs par Justine Jérémy et qui raconte justement la vie de ces ouvrières, les peines sardines. On écoute.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez, bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines. Et déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines. Et déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-moi leur savant. Voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir nettoient leurs sardines. Et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir nettoient leurs sardines. Et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez-moi leur savant. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-moi leur savant. Voilà qu'arrivent les peines sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez-moi leur savant. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-moi leur savant. Voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez-moi leur savant. Voilà les ouvriers. Dans la ville rouge, on est solidaires. Et de leur victoire, les femmes sont fières. Dans la ville rouge, on est solidaires. Et de leur victoire, les femmes sont fières. Écoutez-moi leur savant. Écoutez gronder leur colère. Écoutez-moi leur savant. Voilà qu'arrivent les sardinières. À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Les peines sardines. Ah oui, c'était surtout parce que c'est vrai qu'elles se révoltaient beaucoup en Bretagne. À l'Île-Dieu, est-ce qu'il y a eu des révoltes comme ça, des peines sardines, enfin des ouvrières de sardines?
Alors, déjà, elles ne se révoltaient pas beaucoup en Bretagne. Elles se sont révoltées à un moment.
Oui, parce que bon.
Parce que ça forçait un peu trop.
Oui.
Voilà.
Travailler plus pour gagner moins.
Voilà. Oui,
c'est pas d'hier.
En gros, c'était ça. Ah. Donc voilà. Ouais. Non, mais il y a eu assez peu de révoltes. Celle-là a beaucoup marqué.
Ouais.
Je crois que c'est 1924 hein, de mémoire.
C'est mais
je
dans suis les pas années 30, juste avant les années 30.
Voilà. À l'Île-Dieu, alors. On a dans les... Alors là, pour le coup, moi j'ai trouvé ça aux archives de Rochefort, dans le journal de l'administrateur qui était donc en charge, l'administrateur des affaires maritimes, qui était en charge donc de l'Île-Dieu au moment de la guerre de 14-18.
Oui.
Et là, il y a quelques... Parce que les usines tournent hein, pendant la guerre.
Bah oui.
Là, il y a quelques fois où, et notamment en 1916, où les usinières râlent très très fort parce qu'en fait, on veut les payer moins cher que la saison précédente. Donc là, elles se fâchent, mais ça ne dure pas longtemps parce que l'Île-Dieu est un territoire isolé.
Oui.
On a des femmes qui... socialement ne sont pas organisés, je veux dire il y a pas de syndicat, bien entendu il y a pas de tout ça, et on a le principal employeur du pays en face d'eux, quoi, donc
ouais.
À avec une jolie collusion quand même entre les notables locaux et les usiniers, parce que bah, justement, ça dynamise toute l'économie insulaire. Donc, ça dure vraiment peu de temps. Et puis, les femmes qui ne travaillent pas, ça veut dire que les hommes qui pêchent et qui ramènent le poisson ne peuvent pas vendre leur poisson non plus.
Oui.
Donc, ça met tout le monde au chômage, en fait.
Bah là, c'est ça.
Donc, ici, il n'y a pas eu de gros mouvements. Il y a eu des sursauts, des moments où ça chauffe un peu et où l'administrateur télégraphie au préfet de peut-être envoyer des forces de gendarmerie supplémentaires parce qu'il a un peu peur que ça dérape. Mm-hmm. Mais en fait, bon, il n'y a jamais eu rien d'extraordinaire. Non. Il y a eu au Sable, hein, par contre, à un moment, quand ils ont voulu introduire des sertisseuses, donc qui prenaient le boulot justement des ouvriers qui étaient dans l'usine, c'est-à-dire parce que le travail du poisson était confié aux femmes, mais le travail de soudure des boîtes et même de fabrication des boîtes était fait par des ouvriers soudeurs qui étaient donc un peu une qualification un peu à part et un peu le haut du panier dans les usines. Et en fait, là, les ouvriers se mettent en grève parce qu'ils se rendent bien compte que les sertisseuses vont leur piquer leur boulot. Et donc, au Sable, il y a saccage de l'usine Chancerelle, notamment. Hein. Mais ici, il n'y a jamais eu ce genre de choses.
Alors donc, on est au début du siècle, hein, donc avant la guerre de 14, vers 14-18, et l'île Dieu prospère grâce aux usines, en fin de compte, alors.
C'est-à-dire que les usines commencent à s'implanter à partir de 1860, les premiers essais, et les industriels nantais, donc qui sont beaucoup plus puissants commercialement parlant, arrivent un peu plus tard, hein, donc c'est vraiment fin 19e, et effectivement, ça donne du boulot à entre 450 et 500 femmes. Ça donne du travail aux marins, ça fait venir donc des marins extérieurs dans le port pendant toute la saison, donc évidemment ça dynamise l'économie.
D'autant plus qu'en 1880, je lis dans le livre, je suis pas, sur la côte bretonne, dans la baie de Dornenay à Concarneau, l'industrie sardinière est en crise parce que le poisson migre plus de la même façon.
Alors ouais, parce que bon, l'histoire des usines à l'Île-Dieu, elle commence que vers 1862, mais effectivement, autour de Douarnenez, dans les ports Bigoudin, dans le Morbihan aussi. Il y a déjà des usines à ce moment-là.
Oui, bien sûr.
Ça commence avant. Et il y a les fameuses friteries, comme tu dis, puisqu'en fait, on frit les sardines avant de les mettre en boîte. Et en fait, oui, il y a une première crise de la pêche de la sardine, dans les années 1880, oui, effectivement. Et il y en aura une deuxième dans les années 1902. Et c'est vrai que l'Île-Dieu n'est pas située au même endroit, hein, géographiquement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, autour de l'Île-Dieu, il y a
du poisson.
Sardine.
Ouais. Il y a du poisson, Tigéo.
Donc ça attire les Bretons qui ne trouvent plus le poisson chez eux.
Hein. Et comme au départ, bien sûr, les conserveries au départ, c'était à Nantes. Et puis on a déplacé les usines au bord de mer parce que c'était plus pratique pour mettre le poisson en boîte de déplacer l'usine que de déplacer le poisson. Vu les transports à l'époque, ça prenait du temps. Donc le poisson n'arrivait pas en bonne qualité.
On a un petit poisson quand même qui est très fragile pour l'homme de la sardine. Donc ça voyage pas bien, la sardine.
Et donc, on a fait en sorte qu'on déplace les usines au bord de mer, et puis les marins pêcheurs viennent sur l'Île-Dieu, et ça donne un essor à l'Île-Dieu.
Complètement,
Ouais.
Mais à l'Île-Dieu et à toute la côte vendéenne, hein, parce que au moment où les usines se développent à l'Île-Dieu, il y en a déjà au Sable d'Olonne, il y en a à Saint-Gilles, c'est vraiment l'industrie de la sardine sur la côte vendéenne, c'est quelque chose de très très important à la fin du 19e siècle et au début du 20e.
Et alors, c'est drôle parce qu'on retrouve aussi les mêmes problème qu'on peut avoir maintenant. On ne parle pas d'environnement à l'époque, mais la construction des usines qui s'intègrent, enfin qui se mettent près du port, parce que plus on est près du port, mieux ça vaut. Là où habitent les gens, ça crée quand même des petits problèmes. Ça pue.
Partout où elles s'installent, parce qu'au début à Nantes, les premières usines, c'est pareil, il faut imaginer des usines dans le centre historique nantais. Et c'est pareil, ça pose des désagréments agréments aux riverains. Et bon, très vite, elles vont aller plus sur la périphérie, et notamment à Chantenay, hein, qui va être quand même le grand centre où les usines vont s'implanter.
Ouais, bah, surtout qu'il y avait des constructions de bateaux à Chantenay, il y avait des sucreries, il y a une qui était rendue là, une sucrerie aussi. Et pas mal de choses, ça devenait industriel, Chantenay.
Voilà, complètement. Ouais. Ouais. Donc ici, bah, c'est pareil. Au début, les usines s'implantent, donc les premières sur le quai de la Chapelle, qui à l'époque est tout neuf en plus. Hein.
Ah oui.
Donc permet de circuler aisément depuis le port.
Voilà.
Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque le quai de la Chapelle, il a été construit pareil, fin 19e. Mm-hmm. Donc elle s'implante là. Et puis, donc là, on a d'abord Sopiquet et Bouvet-Flon qui s'implante. Mmh. Et puis Amieux va s'implanter, lui, donc un peu plus loin, là où est maintenant le Super U, en fait.
Oui.
Et puis on va avoir Paulet qui viendra un peu plus tard, en 1936, derrière le Super U. Il y a encore l'impasse Paulet. Mmh. Et Béziers en 1912, là où maintenant il y a Oya Vacances.
D'accord.
Anciennement Jura Atlantique.
Ok.
Voilà. Donc, en fait, sur la période 1930, on a 5 usines à l'Île-Dieu.
Voilà. Et au départ, les cheminées faisaient 2-3 mètres seulement. Et ça fruitait coché, hein. C'est-à-dire que ça sentait la friture de partout.
Et ça envoyait un peu des résidus d'huile, en fait, partout. Donc, les fumées grasses, on va dire.
Voilà. Donc, il y a eu des réglementations. Qui ont réglementé la hauteur des cheminées. Il y a aussi le rejet des eaux usées vers la mer qui se faisait un peu à l'air libre.
Ça posait donc, quand même aussi de gros problèmes parce que les résidus de poissons étaient mal filtrés. Et donc ça peut être très fort.
Ouais.
Et c'est vrai que ça a été résolu assez tardivement, parce que le quartier des usines était quand même un quartier, même dans les années 50, un quartier très odorant. Hein.
Oui. même quand il y avait l'usine après, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup moins d'odeur qu'avant, mais ça sent quand il y a une usine.
Oui.
Mais remarque, il n'y a pas partout. Tu vas à Nantes, t'avais, quand les petits berlus étaient implantés, ça sentait le gâteau.
Ça sentait très bon.
Ça sentait très bon aussi. À côté, tu avais la manufacture de tabac qui sentait le tabac aussi. Ça dépendait quand c'était un temps de pluie ou pas. Bon, mais il y a toujours une usine sans ce qu'elle fait. Mm. D'ailleurs, un restaurant, c'est pareil. Quand on passe devant un restaurant, ça sent généralement quand c'est la bouffe. Mm. Et donc, il y a eu c'est marrant de revoir qu'à cette époque, il y a eu de la réglementation, il y a eu des discussions, il y a eu quand même pas mal de discussions autour de cela pour dire comment est-ce qu'on va résoudre ce problème de faire cohabiter les personnes et les usines, puisque il fallait le faire absolument. Quoi.
Voilà.
Alors ça, c'est marqué dans le bouquin aussi.
J'ai trouvé dans nos archives justement la fameuse affaire des cheminées, là, qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui devait être un enfer pour les riverains, effectivement.
Ah bah oui, c'est sûr que ça devait sentir. Il y a un truc qui faisait pas, c'était du maquereau qui faisait. On n'a jamais fait de. Est-ce qu'ils ont fait des concerts de maquereau?
Alors un peu.
Ah bon
notamment Bouvet-Flon, je crois. Ouais. En complément, quoi, hein, mais jamais de manière aussi importante que les sardines, mais justement pour compléter un peu les apports, il y a eu du maquereau de mie en boîte ici.
D'accord.
Aussi.
Mais ça n'a pas fait une java, parce que c'est la java du maquereau, c'est extrait d'un CD qui s'appelle Les pubs de Gotenner, où il a fait plein de pubs, notamment pour Sopiquet. En voilà une, ça s'appelle, c'est très court, hein, ça s'appelle La java du maquereau, on respire.
C'était un parfait maquereau. Elle était jolie moutarde. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Ils s'aimaient dans la marinade. Chez Sopiquet se fréquentaient un maquereau et une moutarde. Chacun savait bien qu'ils s'aimaient dans une boîte de chez Sopiquet. Sopiquet, c'est la java du maquereau. À la moutarde.
Bah bien sûr, alors comme ça, donc il n'y avait pas beaucoup de maquereau, mais il y avait des sardines, et puis on y reviendra. Et puis des poissons, enfin du thon, tout ça. Le thon, c'est venu après la sardine, hein, ça a commencé par la sardine, les sardineries, non?
Oui. Au départ, les premières usines ne traitent que la sardine. Mm-hmm. Et assez vite, justement, du fait qu'à l'Île-Dieu, on pêche déjà le thon.
Oui.
Avant l'implantation des usines, eh bien, très vite, pour diversifier justement leur production et un peu l'unifier sur la saison, les usines vont se mettre à travailler aussi le thon. Mmh. Et notamment Bouvet-Flon, hein, qui deviendra dans les années 60-70, Bouvet-Flon, le roi du thon.
Le roi du thon, oui. avec un TH, hein, s'il vous plaît. Merci. Elle bouvait flon. Oui, ben ça, bah, il y a des, même ça durait longtemps cette réclame d'ailleurs. Et donc dans le bouquin, il y a les facsimilés des commandes des boîtes de conserve où justement, je crois qu'il y en a une. J'ai regardé ça, mais je vais retrouver. Bouffé flon, le roi du don. Elle est mise dedans.
Oui, il y en a une, je crois. Hein.
Parce que bah, il y a Amieux, il y a Sopiquet, il y a toutes les grandes marques qu'on connaît. Il y a bon, certaines qui ont disparu, hein, mais il y en a qui continuent. Hein, Sopiquet, ça continue.
Oui, et puis Petit Navire, par exemple, hein, oui. Ce sont les établissements Paulet qui ont créé la marque Petit Navire, bon, qui aujourd'hui appartient à un gros groupe énorme de l'agroalimentaire. International. Mais oui, certaines existent encore. Oui.
Ouais. Ah ben j'ai le Bouvet-Flon, le roi du ton, t'as un roi avec une couronne. Enfin,
un ton avec une couronne.
Il est rouge et gris, attention. C'est un support publicitaire en forme de poisson.
Ouais. Alors, c'est vrai que les grands industriels de la conserve ont très tôt travaillé leur image hein, et créé justement des logos, des pubs. Et ils ont fait appel à des artistes pour créer leur logo. Le plus célèbre, c'est la sardine en queue de pie là, de chez Béziers.
Ah oui.
C'est Benjamin Rabier hein, qui l'a créé. Hein, donc le père de Gédéon.
Et de la vache qui rit.
Et de la vache qui rit.
Bah, attends. Le monsieur qui faisait des... Et qui a vécu un peu à La Roche-sur-Yon en même temps.
Ça, je ne sais pas.
J'aime bien Benjamin Rabier, si je peux t'en parler, ça classe, c'est bien. mais c'est vrai que c'est un grand caricaturiste, un grand dessinateur, ce monsieur.
Ah oui,
illustrateur. Oui. Et c'est à lui qui était à l'origine de la tête de la vache qui rit, justement. Mm. C'est lui qui a fait ça, entre autres. Et puis, ben, Gédéon le canard, oui. Ben, qui n'a pas lu Gédéon le canard? Les petits enfants d'aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas lu, mais
ils
feraient peut-être qu'ils s'y mettent. Oh, bon, ils connaissent Bécassine, ils veulent connaître Gédéon, il n'y a pas de problème. On est rendu dans le... Ben, on va dire qu'on est... Alors, pendant la première guerre, ça continue à travailler, tu le disais.
Oui.
La seconde guerre, des améliorations, je suppose, industrielles, mais qui ne remettent pas en cause le fonctionnement des usines, non?
Alors, ben, en fait, bon, les usines, ben, comme toutes les entreprises, elles vont évoluer. Mmh. Et... Donc petit à petit, les usines vont se mécaniser parce que en fait, tu parlais tout à l'heure de ces usines qui sont installées au plus près du poisson.
Oui.
Mais ça, c'était réalisable parce que à l'époque, les premières usines étaient très peu mécanisées.
Oui.
Donc ce qu'il fallait, c'était de la main d'œuvre.
Oui.
Donc à partir du moment où il y avait le poisson et la main d'œuvre au même endroit, ben on mettait l'usine au même endroit. Mais c'était des grands hangars avec des tables, des bails pour laver le poisson, des choses comme ça, très simples. Évidemment, petit à petit, les usines vont se mécaniser. Donc d'abord les sertisseuses, notamment pour donc souder les boîtes, pour sertir les boîtes, et puis après toute la chaîne de production va se mécaniser. Mmh. Donc les usines vont coûter de plus en plus cher parce que elles vont demander de plus en plus de machines et de plus en plus d'énergie.
Voilà.
Et donc effectivement, l'usine de la fin du 19e siècle ne ressemble pas du tout à l'usine d'après la Seconde Guerre mondiale.
Il y a eu une évolution. Sûr. On va parler une chanson encore sur les poissons, ça s'appelle Les Sardines. C'est Pierre Louqui qui l'a écrite, elle a été chantée par les Trois Ménestrels. Ça, je crois que chanson plus bifflorée a dû la reprendre, mais je ne suis pas sûr. Mais lui, il la chante aussi, il l'a chantée en public, s'il vous plaît. C'est ce que je vous propose d'écouter. Pierre Louqui, Les Sardines.
Si l'on pouvait desserrer les sardines, si l'on pouvait enfin leur éviter d'avoir le cou au pied de la voisine et du fer blanc à chaque extrémité, elle pourrait dans l'huile parfumée remuer la queue, ne serait-ce qu'une fois, en chantant sur la mer calmée. Chez l'épicier, y aurait de la joie. La santé, ça n'a pas de prix. Donner de l'air aux sardines. La santé, ça n'a pas de prix. Donner de l'air, aérer Paris. Si l'on pouvait desserrer les sardines, si l'on pouvait écarter les harengs, on ferait bien pour qu'ils aient meilleure mine, les renvoyer à la mer un moment. Par le ministre, une loi rédigée ordonnerait pour ne plus les serrer de faire la surface corrigée. Tant de sardines au mètre carré. À la santé, ça n'a pas de prix. Donner de l'air aux sardines. À la santé, ça n'a pas de prix. Donner de l'air à Aéré Paris. Si l'on pouvait desserrer les sardines dans le métro, quelle révolution, quel réconfort pour les fortes poitrines, et quel confort d'étoile à la nation. Sardines à l'huile ou bien nos aromates, gens de Pantin ou bien gens de Puteaux, ne vous laissez plus mettre en bois. Tous avec moi, chantez plutôt. À la santé, ça n'a pas de prix. Donnez de l'air aux sardines. À la santé, ça n'a pas de prix. Donnez de l'air à Aéré Paris. La santé, ça n'a pas de prix. La santé, ça n'a pas de prix. La santé, ça n'a pas de prix. La santé.
Pierre Louki, bah, c'était un copain de Brassens. Pas connu ce monsieur-là, mais il a fait plein de chansons, la Momo Bouton, des choses comme ça. Il a eu plein d'interprètes et il a eu très discret ce monsieur d'ailleurs. Mais il a fait de très belles chansons d'ailleurs, dont celle-là, Les Sardines. Alors, l'usine continue à travailler après la Première Guerre, après la Seconde Guerre, parce que ça ne s'est pas arrêté non plus pendant la guerre, non ?
Alors,
il y a peut-être eu moins de problèmes.
Il y avait des problèmes de ravitaillement.
Ouais.
Il y avait aussi pour Paulet un autre problème, c'est que Édouard Paulet s'est impliqué pendant la Seconde Guerre mondiale et en fait les autorités d'occupation ont fait fermer son usine.
D'accord,
en représailles.
Voilà. Ah, d'accord. C'est un épisode sympathique. Elle s'est remise de ses... après. Ils ont continué après, non ?
Ils ont continué après, mais c'est la première, ouais. La première usine qui a fermé à Lille.
À cause de ça.
Non, je pense pas, mais pour d'autres raisons, des raisons aussi industrielles. Mmh. Mais voilà, il y a des lettres, en tout cas en 41, où voilà, où on sent bien que cette usine-là, les Allemands ne veulent pas la rouvrir.
Après, ça continue jusqu'à dans les années 60, je crois. Et puis, bah, vient le déclin des sardineries parce que il y a une concurrence étrangères et internationales, la façon aussi de conserver le poisson à bord des bateaux avec la congélation des poissons fait qu'on n'est pas plus de que ça obligé d'avoir une usine auprès de la mer.
Voilà, c'est-à-dire où le modèle industriel change, ouais, et ouais. En fait ces usines-là, elles sont plus rentables pour les industriels qui vont pouvoir pêcher toute l'année, enfin travailler toute l'année dans des usines notamment marocaines ou portugaises du poisson qui est pêché en continu, alors que chez nous ça a toujours été une ressource saisonnière. Et puis aussi il y a la société française qui évolue et les salariés qui demandent la sécurité sociale, des salaires décents, des choses comme ça.
C'est bizarre, ils veulent être traités comme des humains.
Non, donc ça coûte cher tout ça.
Ça coûte cher un ouvrier. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a des petits chinois. Voilà. Parce que
donc on délocalise. Donc en fait, à l'Île-Dieu, on a connu des délocalisations dès les années 50.
Puis maintenant, il y a des choses que. Je sais qu'il y a un moment, je ne sais pas s'ils continuent à faire, mais les tonniers japonais, notamment, entre autres, ils employaient des Philippines. Mais qui coûtait pas cher, parce que c'est des prisonniers directement comme ça. Alors tu peux concurrencer, tu peux dire aux gens, ouais, mais vous coûtez cher avec la protection. Bah, tu pourras pas coûter moins cher qu'un prisonnier. Hein, ça, c'est pas bon. Bah oui. Donc c'est ça, voilà. Puis moi, je trouve tout à fait normal aussi que les ouvriers râlent un peu parce qu'ils travaillent. C'est grâce à eux qu'il y a des choses. Hein. Quand on dit que c'est Louis XVI qui a fait Versailles, Louis XIV, non, c'est pas Louis XIV, c'est les mecs qui ont gratté pour monter les monuments. Autrement, Louis XIV a dit, je veux un château, je vais prendre du pognon par les impôts aux gens, puis vous allez travailler pour ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a fait Louis XIV, mais les gens qui l'ont fait, on les connaît moins comme ça. On en parle de temps en temps quand il y a un incendie dans les grandes églises, comme Notre-Dame de Paris. Autrement,
tu digresses.
Je digresse pas. Je dis simplement que les ouvrières d'usine et tous ceux qui travaillent dans les usines, ben, c'est grâce à eux que des gens ont bien vécu, c'est ça, et que il était un peu normal quand même de ne pas les prendre pour des larbins, quoi, c'est tout. Donc qu'ils demandent des droits, c'est tout à fait normal. Mais à cause de ça, c'est bien fait, on a fermé. Parce que c'est ce qu'on a dit. C'est pas ça du tout, c'est uniquement que l'industrie change. Et on arrive à la fin des l'usine qui a essayé d'être repris. Raconte-nous un peu l'aspect, la dernière page de l'usine.
En fait, Bouvet-Flon, dans les années 60-70, est une grosse usine au niveau français, qui travaille donc le thon, et qui va être achetée par Sopiquet, qui n'était plus sur l'île à l'époque, mais qui fait partie à ce moment-là d'un gros groupe, le groupe Sinal, qui rachète pas mal d'usines. Ils sont en pleine concentration industrielle. Et donc, Bouvet-Flon va être racheté par Sopiquet. Et Sopiquet annonce donc en 75 que l'usine
va fermer.
Et là, pour le coup, il y a vraiment un mouvement important sur l'île. Il y a vraiment une réaction de toute la population, pas uniquement des ouvrières d'usine. Et face à une direction de Sopiquet qui est assez intransigeante, eh bien, les gens vont s'organiser et il va y avoir blocus de l'île. Et il va y avoir aussi débarquement à Nantes, au siège de Sopiquet.
Ouais.
Alors bon, ça a fait beaucoup de bruit dans la presse locale.
Oui.
Ça a prolongé un peu l'usine, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Et finalement, en 80, Sopiquet dit bon, cette fois-ci, on s'en va et c'est plus négociable. Et à ce moment-là, il y a un collectif qui se crée sur l'île pour la création d'une coopérative ouvrière de production. Et ça va être donc la naissance de l'Aspect, Société des
Anonyme.
Produits. Société des produits alimentaires de l'île-Dieu, et qui est donc une société à participation ouvrière. Les gens vont acheter des actions. Et ça va permettre donc de prolonger de 12 ans l'histoire des conserveries de l'Île-Dieu, avec des moments vraiment difficiles, ils vont essayer de trouver de nouveaux produits. C'est là que va être lancé quand même le thon fumé, qui aujourd'hui est quand même une grande spécialité de l'Île-Dieu. Et puis les premières conserves, plus charcutières, le pâté de thon et tout ça, mis en bocaux, c'est aussi un des héritages de l'Aspect. Okay. Voilà.
Et justement, on parlait tout à l'heure de Benjamin Rabier qui avait fait des étiquettes et fait pour les boissons. Et nous, on a eu notre Benjamin Rabier de l'Île-Dieu.
Alors, on a eu Jean-Olivier Héron, qui s'est beaucoup, beaucoup impliqué dans cette histoire et qui a fait de très beaux visuels.
C'est vrai. Et dans le bouillat, il y en a quelques-uns, d'ailleurs.
C'était la moindre des choses que lui rendre hommage.
Voilà. Et ce bouquin, donc, on met une chanson, puis après, on va. Oh oui, parce qu'il y a 41 quand même déjà. Oh là. Eh bien, on va mettre une chanson d'ajustement. Alors, c'est fini. C'est Michel Bernard qui fait cette chanson. C'est une chanson qui ne parle pas que des usines, mais et puis même pas d'usines du tout, mais elle parle d'autre chose. C'est jamais fini. Il faudrait que ce soit jamais fini. On écoute.
On change plus la vie, on descend les calicots, on rentre chez soi illico, on pose les pavés, bien assez rêvé. Et nos slogans de blaireaux, ils sont bons pour le caniveau. C'était une folie, mais c'est bien fini. On change plus la vie, on change plus la vie. Alors c'est fini, on change plus la vie. Va dire ça au petit Roumain sur son grabat d'orphelin. Va le dire à Gaza, au petit Mostafa, qui s'est trouvé comme joujou des barbelés, des cailloux. Dis-lui, mon petit, le monde est ainsi. On change plus la vie, on change plus la vie. Alors c'est fini, on change plus la vie. Va le dire au Pakistan, au petit bonhomme charmant qui cueille de ses mains la fleur du jasmin, au parfum si envoûtant le soir dans les restaurants. À 6 ans et demi, dis-lui c'est fini, on change plus la vie, on change plus la vie. Alors c'est fini, on change plus la vie. Dis-le avant qu'on la baise, à Whipsa la Thaïlandaise, qu'attend d'un air triste le quart des touristes qui défileront sur sa couette 14 ans et si experte. Et oui, ma jolie, le monde est ainsi. On change plus la vie, on change plus la vie. Et pourtant la vie, c'est une môme aussi qui toujours salit ses langes. Faut bien que quelqu'un la change. Elle pousse tant de cris, de peur qu'on l'oublie. Et toujours ça recommence, elle nous tire par la manche. Un peu de folie, c'est jamais fini. Change-moi, dit la vie, change-moi, dit. Un peu de folie, c'est jamais fini. Change-moi, dit la vie, change-moi, dit la vie.
Bah oui, les usines sont fermées, malheureusement, mais l'empreinte est restée. Et puis, elle n'est pas vraiment finie, cette histoire, puisque maintenant, il y a ce bouquin qui est sorti. Et là, bah c'est vrai que c'est il est vraiment sympa. Je dois reconnaître que là, c'est vraiment... J'ai commencé que le début, hein, franchement, mais ça va. Hein, c'est bien comme bouquin. Ça a été compliqué à faire oh, là, c'est Benoît qui me parle, bien sûr.
Alors, compliqué, oui et non. Déjà, il y avait une trame très solide qui existait avec cette exposition. Là où il y a un gros travail, c'est concernant toutes les illustrations, photographies, dessins, visuels.
Ouais.
Parce que entre une exposition et un livre, il y a une grande différence. Mm-hmm. Une exposition, c'est une activité pédagogique, culturelle et gratuite. Mm-hmm. Alors qu'un livre, c'est une activité commerciale parce que le livre est vendu.
Oui.
Et en termes de droits d'auteur, ça ne marche pas du tout pareil.
Ah.
Il y a plein d'organismes, des musées, la Bibliothèque de France, choses comme ça, qui disent, pour des aspects pédagogiques ou des expositions gratuites, vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez reprendre nos images, les reproduire, mais qui disent, quand c'est une activité commerciale, il faut nous demander l'autorisation et payer des redevances, des choses comme ça.
Oui.
Et comme ce livre, en fait, c'est presque un livre d'images. Il doit y avoir autant d'images que de textes.
Ah oui, oui, oui. Dire qu'à chaque page, tu as la moitié d'images, moitié texte.
Donc, ce serait dommage de ne pas lire le beau texte de Pascal, mais ceux qui n'aiment pas lire peuvent aussi feuilleter, regarder les images, c'est passionnant.
Oui, ah bah oui, c'est vrai. Mais il faut lire le texte. Il faut voir les deux, parce qu'on peut revenir dessus. Je suis en train de regarder comment, justement, le démantèlement des usines à Lille-Dieu. Et puis, quand les gens embarquent pour Nantes, les usinières qui embarquent pour Nantes, et puis à Nantes, il y a eu des manifestations. Non, Lille-Dieu ne peut pas mourir. Blocage du port par les bateaux de pêche. Il y a eu quand même, c'était important. C'est vrai qu'on en a parlé, hein, on a causé dans les chaumières à cette époque-là.
Oui.
Et c'est vrai que c'était. Ben, ça était vraiment quelque chose d'important, les usines de Lille-Dieu. D'ailleurs, je crois qu'il flotte toujours, même les cheminées ne sont plus là. C'est peut-être pour ça qu'on sent encore un peu la friture dedans, quelque part. Hein. Mais donc, il n'y a rien à rajouter sur le fait du bouquin. Comment est-ce qu'elle lui fera revenir dessus, revoir. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Après, vous voyez ensemble pour le faire, pour vraiment le faire, le rendre matériel, pour le matérialiser.
On a eu beaucoup d'échanges, alors... On ne s'est pas beaucoup vu physiquement, non. Peut-être trois fois. Ça se fait beaucoup par email, par téléphone.
Oui, oui.
Où Pascal me donnait des informations, me donnait des morceaux de texte, je lui envoyais une maquette, elle commentait, elle corrigeait.
Oui.
On a eu un long débat sur la couleur jaune.
La couleur jaune, ah oui, ben pourtant elle est sympa, c'est vrai. Non, tu n'aimais pas le jaune?
J'avais peur que ça vire, parce que c'est une couleur qui est un peu traître à l'imprimerie.
Oui, c'est ça risqué comme couleur.
Oh, maintenant... Ils ne se trompent pas beaucoup, les imprimeurs. Quand on voit une couleur, c'est rare qu'ils se trompent un peu. Hein. Non ? Ça arrive ?
Ah, parfois, oui.
Parfois,
on a parfois des surprises.
Ouais, mais là, la surprise est une belle surprise. Hein. Toutes les photos sont entourées avec un petit liseré rouge sur un fond jaune et le petit ton en bas de page, en bleu, hein, en bleu foncé. C'est agréable, c'est agréable à lire. Agréable à lire, hein. Et c'est vraiment, il y a plein de choses, on apprend plein de choses dedans.
Alors, au sujet des illustrations, je voulais juste dire un truc, c'est que un des problèmes qu'on avait, c'est que, en fait, des photographies, enfin, surtout des cartes postales, pas sur la période récente, hein, mais sur la période, justement, fin 19e, des photographies des usinières, on n'en avait pas.
Bah oui, bien
parce
sûr.
Que et alors non mais ce qui est fantastique c'est que sur toute la période de l'entre-deux-guerres par exemple on a énormément de peintres qui ont peint le port.
Oui.
On a des photographes qui sont venus faire des photographies et des cartes postales du port. Il y a énormément de choses sur les bateaux, parce que c'était beau.
Bah oui.
Sur les usinières, rien.
Bah quand même.
Mais invisibles, les nanas.
Bah bien sûr.
Donc là, il a fallu tout le courage et la patience de Benoît, qui a fait un gros boulot pour trouver des illustrations qui, effectivement, ne sont pas les usines de l'Île-Dieu, mais correspondent aux usines Amieux, aux usines de Véflon, voilà. Mais franchement, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et puis moi, je voudrais remercier, parce qu'il y a quand même un gars très discret qui s'appelle Monsieur Corbineau, qui a été un des premiers, quand j'ai lancé justement la collecte de documents au niveau du service patrimoine, donc il y a maintenant presque 20 ans, qui est venu et qui nous a permis de scanner toute sa collection de cartes postales. Et donc, effectivement, on a largement puisé dedans au niveau des illustrations de Port-Joinville, mais des usinières, il n'y en a pas.
Bien.
Voilà. Et puis, merci aussi à Jean-François Henry, qui a accepté qu'on pioche aussi beaucoup dans le fond turbé, donc le fond de Roger, qui lui a photographié les usinières, mais les usinières, donc dans les années 50, 70. 60, 70. Voilà.
Et puis, il a préfacé le livre aussi, Jean-François.
Jean-François nous a fait une très jolie préface.
De, oui, c'est vraiment intéressant.
C'est un produit de l'Île-Dieu. Hein,
c'est vraiment un produit de l'Île-Dieu, c'est ça. C'est totalement de l'Île-Dieu. Il y a aussi autre chose dont elle est timide, on n'en parle pas, mais tu as un autre bouquin qui sort. Alors forcément, Benoît ne va pas écouter parce que ce n'est pas chez lui que tu l'as édité. Là, donc.
Oh, il est très bien pourtant.
Ah bon, d'accord. Alors raconte-nous ce que c'est que ça.
Alors l'autre livre, c'est Mémoire de marin, et ça c'est en grande coopération avec Jean-Paul Léger.
Oui, d'accord.
C'est un recueil de témoignages de marins de l'Île-Dieu. Là aussi c'est un projet, tout sort en même temps, mais c'est un projet qui était en cours depuis plusieurs années.
Alors tout ça sort bien sûr dans les librairies habituelles, je suppose.
Oui. Alors le musée de la pêche a été ravi de voir ce livre et m'a dit qu'il le prendrait bien pour le vendre au musée.
D'accord.
Donc, si vous voulez l'acheter au musée de la pêche, le petit profit qu'ils font dessus servira à entretenir le corsaire, le beau bateau qu'il y a en face. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne idée.
Oui, d'accord. Autrement, librairie, et puis sur le continent aussi. Et en ligne, non? Tu vends en
ligne? Oui, il y a une boutique en ligne. Alors, quand on est sur l'Île-Dieu, on n'a pas besoin de payer de frais de port. On se donnera rendez-vous pour se le remettre en main propre.
Ouais, c'est mieux. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est pas des frais de port, c'est des frais de boisson. C'est généralement parce que tu trinques, écoute, c'est normal, ça s'appelle le pourboire, c'est logique. Venez donc, rentrez donc, apportez de votre bouquin, puis on va dans donne change, on te donne un petit coup à boire, quoi. C'est normal.
Hein? Oui.
Voilà. Les gendarmes, vous écoutez pas, hein. Donc, on vous dira pas les arrêts d'abord pour commencer. C'est bon. Les librairies, maisons de la presse, d'autres endroits aussi?
Alors, la nouvelle conserverie de l'Île-Dieu, qui a une belle boutique, m'en a pris.
D'accord.
Et ils le vendent également.
Et le vendent
parce
également.
Parce que, en fait, c'est un peu l'histoire de leurs prédécesseurs, il y a 150 ans, et ils ont trouvé ça intéressant de vendre ça à côté de leur conserve. Et
puis il y a aussi, sur le continent, est-ce qu'il y a des lieux de vente?
Alors, l'espace des prés à Chaland, qui doivent être en train de le recevoir, là, je suis en train de faire les expéditions.
D'accord.
Et prochainement également...
À La Roche, non?
Non, pas jusqu'à La Roche.
Non.
Noirmoutier.
Ben c'est bien. C'est à côté. Donc vous qui nous écoutez sur le continent et dans tout le monde, le mieux pour vous, si vous êtes loin, c'est de l'acheter en ligne. Autrement, vous déplacez sur la côte vendéenne, même jusqu'à l'Île-Dieu. Tant qu'à faire, voilà. Et c'est vrai que je peux dire le prix, c'est pas gênant?
Non, c'est public,
parce que
c'est écrit dessus.
C'est public, c'est marqué dessus. Et 20 euros, franchement, c'est pas cher pour le paquet de documents qu'il y a dedans et comment c'est écrit. Hein. Ça, c'est sûr que vraiment ça vaut le coup. C'est vraiment c'est un bouquin qui fait combien de pages? Déjà, avec les petits poissons, il y a 150 pages dessus. 151 avec la table des matières, donc 152, la couverture et tout ça. La couverture est gratuite, elle est en plus, hein, c'est ça. et dedans, effectivement, il y a moitié texte, moitié documentation visuelle, des images, il y a tout, tout est dit, voilà. Et l'autre livre aussi sort pareil, on le retrouvera partout, le bouquin aussi.
Alors lui, il a été édité par Une île des auteurs, et on le trouve à la Maison de la Presse, on doit le trouver aussi à Contre-Courant.
Oui, d'accord,
sur l'île, quoi.
Absolument. Et donc, attendez, on va faire un scoop. Chère madame, charmante Pascal, vous serez donc à la Biennale du Livre à dédicacer vos bouquins.
Ouais.
Oh là là,
Et le lendemain, à la Fabrique.
À la Fabrique, bah, tu t'arrêtes.
Donc le 12 et le 13 août.
Alors le 12 août, c'est la biennale du livre, et donc tu seras en train de dédicacer tes livres. C'est Place Lapidus toujours, c'est vous, non?
Bah, oui.
Ouais, c'est ça. Oui. Place Lapidus, donc il y aura les deux livres. Tu seras présent aussi en tant qu'éditeur?
Non, j'aurai deux livres, donc celui de Frédéric Pascal et le recueil de contes de Frédéric Nguyen Rebrolle.
Qui est sympa aussi. Hein.
Mais c'est priorité aux auteurs, à la biennale du livre.
Oui, bah oui, c'est ça.
L'éditeur doit rester un peu en retrait. C'est l'auteur qui doit signer son livre.
Oui, l'éditeur, c'est un peu l'usinière d'usine. On ne le voit pas sur les photos.
Voilà.
Hein. Il n'y en a que pour ceux qui font joli et qui essaient de. Voilà, encore une fois.
D'ailleurs, je suis très content que tu m'aies invité parce que tu n'aurais pu inviter que Pascal.
Ah non, bah non. Non, parce que c'est vrai qu'un bouquin, c'est quelque chose, c'est un produit et c'est long à faire. Hein. C'est pas si évident que ça. Et puis, on a envie qu'il soit bien fait, donc il y a le moindre petit détail qui compte, la relecture notamment, parce que quelquefois les fautes d'orthographe tu les vois pas, hein. Et puis il faut être plusieurs à le lire pour les voir, et donc tout ça fait un bouquin très intéressant. Je rappelle le titre, hein, qui s'appelle Quand l'île Dieu mettait la mer en boîte, histoire des conserveries. Pascal Cariou, on a le temps, on va passer un tout petit peu de trucs que j'aime bien, mais une réclame de Richard Gottener sur les poissons justement, on parle de saupiquet, attention, c'est parti.
Question hors d'œuvre, saupiquet, je dis que celui qui me plaît, moi c'est la sardine au citron, monsieur, et moi je dis que t'es fada et que le meilleur c'est le thon au saupiquet, mais les oignons imbéciles
et le maquereau printanière avec épices à haute dose, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Bonne mère, tu connais rien à saupiquet et le parfum des aromates dans l'escabèche, qu'est-ce que t'en fais, acrobate?
Question hors d'œuvre, le poisson, chacun peut faire à sa façon. Question hors d'œuvre, saupiquet, chacun peut faire ce qui lui plaît. Saupiquet.
Ah, un petit scoop, celui qui dit oh bonne mère, tu connais rien, les aromates, tout ça, ben c'est Michel Blanc qui parle dedans, hein, oui, tout ça. Ouais, ben, Gottener, il prenait ses copains qu'il connaissait, à l'époque, il y avait des copains comme ça, qui venaient participer à ses pubs, qui étaient vraiment sympas, entre autres. Puis c'était en français maintenant, ils ne sont qu'en anglais maintenant, donc c'est brave. Mais c'est autre chose. C'est un autre débat qui pourrait faire le sujet d'une émission. En attendant, si vous avez autre chose à dire, allez-y, l'antenne est à vous, vous avez encore 5 minutes, hein. Ça fait long. Hein. Autrement, j'étais obligé de mettre une chanson. Alors, donc, c'est vous que vous voulez.
Alors, Pascal a remercié nommément deux personnes. Il faudrait quand même remercier tous ceux qui ont contribué en fournissant des images. Mmh. Parce qu'en tout, on doit bien voir une bonne quinzaine de personnes qui avaient des vieilles photos, des vieux dessins et qui ont accepté qu'on les réutilise.
Qu'on les utilise pas dans le bouquin, quoi, c'est ça?
Oui,
voilà.
Oui.
Donc, on va pas les remercier nommément parce que les 5 minutes suffiraient pas, mais
oui,
collectivement, ils se reconnaîtront.
Bah oui, c'est vrai que autant maintenant où il y a des quantités de photos qui sont prises à la seconde, hein, on peut dire, quoi. Après, le but des photos, c'est justement aussi de les faire circuler, puis que plus de monde les voit, justement. Et là, il y a vraiment tout un. Il y a cette espèce de. Comment on peut appeler ça? C'est un tableau.
Un album de famille.
Où il y a. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a plus de 10 photos par page. Hein, c'est les photos de Roger Turbet, ça.
Ça, sont les photos de Roger.
Quand il a pris. Parce que lui, Roger est rentré dans l'usine, il photographiait les gens des usines.
Bah, il habitait Roger. Juste à côté. Hein,
oui, feignant, il n'allait pas loin. Et non, mais c'est vrai qu'il. Bah oui, mais ça, justement, on n'y pense pas, peut-être. Et lui, il y a pensé. Et justement.
Et c'est
après,
précieux. Oui.
Et voilà. Merci, monsieur Roger. On ne remerciera jamais ce monsieur assez, qui a fait beaucoup de choses pour l'île Dieu à son échelle. Hein, et qui fait que on a des souvenirs grâce à lui. Bah, Jean-Olivier Héron aussi, c'est vrai. Il y a plein de gens qui ont mis leur art au service de l'île. Et ça permet d'avoir des souvenirs comme ça. Il y a eu une photo, je ne sais pas si qu'est-ce qui a pris cette photo-là, celle en haut.
Celle-là, alors là, je la vois mal. Hein,
c'est vu du ciel. Les hélicoptères, Dieu sait
pas. Non, là, je peux pas te dire. On est trop loin.
Quand c'était l'aspect. Et puis il y a plein de photos. Il y a des photos du blocus du port durant le week-end de la Pentecôte 1975. Voilà. Il y a eu plein de choses de fêtes. Et puis on remonte dans le temps avec les photos. Donc tu disais Monsieur Corbineau notamment qui avait donné plein de photos. Et c'est vraiment intéressant à voir. C'est vraiment intéressant.
Bah, l'idée, c'est que tout ça vive et que ça nous permette de transmettre cette histoire. Hein. C'est vraiment ça qui est important.
La sardine, oui. Et c'est vrai que, on a fait le tour de l'apologie du bouquin. C'est bientôt. Oh là là, faut que je mette mon indicatif en route. Voilà. J'allais oublier de le mettre, mais on arrive à l'heure maintenant. On a le temps de se dire au revoir. Il nous reste 2 minutes. Parfois, maintenant, c'est la dernière minute. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le cas de le dire. Donc, on rappelle la biennale le 12, la biennale le 13 à la conserverie,
à la fabrique.
Hein, donc, tu dédicaces les bouquins. Mm-hmm. Hein, autrement, en vente, aux maisons de la presse. À contre-courant, ils y seront aussi
Non.
Non, il n'y est pas.
Ils seront à la fabrique. Donc, puis, le musée de la pêche.
Le musée de la pêche. Et puis, sur le continent, à Chaland.
Voilà. Et à la conserverie de l'Île-Dieu.
Et aussi au magasin de chocolat en face de l'église.
Ah, d'accord,
la maison Goya, oui.
Oh là là, non, arrête,
pour allier de plaisir.
Parle-moi pas, oui, parce que là, ils ont des boîtes de sardines. Et c'est les dernières qu'on fait à l'Île-Dieu, celle-là.
Le magasin de jouets aussi chez les enfants. À partir de demain matin, il devrait y être.
Il devrait y être. Non, en face de l'église, c'est une tuerie. Non, ça fait, j'ai déjà de la réclame, mais on m'a offert une boîte de sardines avec des sardines au chocolat dedans.
On reconnaît le gourmand, là.
Hein. La tuerie. Mais alors, attends, non, c'est une tuerie, là.
Et depuis une quinzaine de jours, ils font des glaces. Aussi, au chocolat. Plus. Chocolat intense, c'est une double tuerie.
Ah bah là, d'abord, bah nous, voilà, c'est nous, on fait de la réclame sans en faire, parce que pendant
tout le temps. On précise, ils sont pas sponsors.
Ah non, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah bah écoutez, on n'a qu'une vie, de temps en temps, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être venu. Hein, et puis,
merci à toi,
ça fait plaisir d'avoir passé une heure avec vous, de parler de sardines, puis d'autres choses. On a un peu digressé de temps en temps, mais c'est le but de l'émission. C'est toujours comme ça. Il faut dire ce qu'on a envie de dire, et bon, pour une fois qu'on peut le faire à la radio, profitons-en.
Tant qu'on peut le faire.
Ben oui, parce qu'après peut-être que ça changera, mais pour le moment on le fait, il n'y a aucun problème. Merci Pascal.
Merci.
Et puis merci Benoît.
Ben, merci de nous avoir accueillis, c'est gentil.
Tu reviendras quand tu veux, vous pouvez revenir quand vous voulez, c'est la radio du lieu, c'est une radio de tout le monde, de Neptune FM, donc c'est ouvert à tous. Et merci encore, et pour les étudiants, merci de nous avoir écoutés, et puis à la semaine prochaine.
À bientôt.